Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, A comme acteur américain, une certaine idée du cool avec Morgan Freeman et Bruce Weber, portraitiste de Robert Mitchum. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Avec la mort de Burt Reynolds, qu'on a appris jeudi soir, disparaît une certaine idée de la virilité hollywoodienne, lui qui fut champion du box-office dans les années 70 et 80 avec des films plus intéressants qu'on ne peut le croire, Délivrance bien sûr, mais aussi d'excellents Robert Aldrich et un mémorable Blake Edwards entre autres. À Plan Large, nous sommes partis à Deauville au 44e Festival du cinéma américain chercher sur les planches ce qu'il reste de cette catégorie à part entière du cinéma, qu'est le grand acteur américain, cette alliance irrésistible de présence et d'immobilité, d'économie de jeu et de puissance intériorisée. Et nous en avons trouvé deux, et pas des moindres, Morgan Freeman, l'acteur révélé la cinquantaine passée par La Rue de Jerry Schatzberg, et puis surtout évidemment Miss Daisy et son chauffeur de Bruce Beresford, devenu depuis un pilier du Hollywood des 30 dernières années avec, pour n'en citer que quelques-uns, trois films d'Eastwood, Impitoyable, Million Dollar Baby et Invictus, mais aussi Seven, Les Évadés et encore les trois Batman de Christopher Nolan. Acteur éclectique mais toujours impassible, volontiers taciturne avec cette lueur dans l'œil où se lisent autant la sagesse que l'ironie, voire une certaine malice, il a reçu hier soir, Morgan Freeman, un hommage plus que mérité pour l'ensemble de sa carrière. Il nous a accordé un entretien exceptionnel, nous l'entendrons dans un instant. Et puis comme Deauville a de la mémoire, c'est un autre monstre sacré d'Hollywood qu'il a été rendu hommage avec le très beau documentaire du photographe Bruce Weber, Nice Girls Don't Stay for Breakfast, le plus existentiel des acteurs américains, celui qui se contentait d'être pour nous terrifier dans La Nuit du Chasseur ou Les Nerfs à Vif, ou encore nous bouleverser dans Celui par qui le scandale arrive ou La fille de Ryan, Robert Mitchum revit dans ce portrait impressionniste, drôle et mélancolique. Bruce Weber nous parlera de sa rencontre avec lui avant que Michel Simon, autre monstre sacré, nous dresse son bilan de la 75e Mostra de Venise dont on connaîtra ce soir le palmarès. Mais pour l'heure, place à un géant qui a incarné Nelson Mandela, un président des États-Unis et même Dieu, rien que ça.
Something wrong back there, Miss Daisy?
No.
Something I done?
No. Yes.
Miss Daisy, I ain't done nothing.
You had the car parked right in front of the front door of the temple like I was the Queen of Romania. Everybody saw you. Didn't I tell you to wait for me in the back?
Well, yes, but I was just trying to... Well, there's two other chauffeurs right behind me there.
You made me look like a fool. A G.D. fool.
Oh, Miss Daisy. Lord knows you ain't no fool.
Slow down. Miriam and Beulah and them, I could see what they were thinking when we came out of services.
What's that?
But I was trying to pretend I was rich.
Well, you is rich, Miss Daisy.
No, I'm not. And nobody can say I put on airs. On Forsyth Street, we made many a meal off of grits and gravy. I've done without plenty of times, I can tell you.
Miss Daisy, if I was to ever get my hands on what you got, shoot. I'd be shaking it around for everybody in the world to see.
That's vulgar. Don't talk to me.
Morgan Freeman, Robert Mitchum avait coutume de dire, c'était un peu une blague, que s'il était acteur, c'est parce qu'il était trop feignant pour faire un vrai métier. Est-ce que vous vous souvenez, Morgan Freeman, quel a été le déclic qui a fait que vous avez voulu devenir acteur?
12 years old.
J'ai 12 ans.
I was in a play, junior high school, and we had a contest.
Il y a une pièce qu'on joue à l'école.
And it was statewide, Mississippi. And during which I got a an award for best actor.
Il y a un concours qui regroupe toutes les écoles de l'État du Mississippi.
From then on, it was pretty much understood that I was going to do that.
Et je remporte le prix du meilleur acteur. Et dès ce moment-là, je comprends que voilà, c'est ce que je vais faire toute ma vie.
Mais entre vos 12 ans, cette vocation à 12 ans, et le moment où vous avez percé comme acteur, il s'est passé un certain nombre d'années, puisqu'il a fallu attendre que vous ayez 50 ans pour qu'on vous remarque dans la rue de Jerry Schatzberg, et puis évidemment Miss Daisy et son chauffeur. Est-ce que rétrospectivement, vous vous dites que c'était une bonne chose finalement, que la reconnaissance vous arrive aussi tard, et qu'il fallait peut-être attendre que le cinéma soit prêt pour vous?
I've been asked that question many times, and my answer is life proceeds as it will.
C'est une question qu'on m'a posée bien des fois, de nombreuses fois, et je réponds toujours la même chose. La vie fait de vous ce qu'elle veut.
For me, I say it was a good thing that my career took its time.
Je dirais que pour moi, ça a été quelque chose de positif. Ça a été bien pour moi que, effectivement, ma carrière démarre tard.
Many times when you get too much too soon, you're not ready to handle it. So I was lucky that it did not come too soon.
Bien, pour beaucoup de gens, la célébrité arrive trop tôt et on ne sait pas trop quoi en faire. Mais pour moi, ça a été effectivement une très bonne chose.
Ce qui est frappant, c'est que vous êtes d'une génération qui est celle des acteurs de l'acteur studio, de la méthode, et des acteurs plutôt exubérants, on dira, dans leur rôle. Vous avez toujours manifesté une présence qui est celle d'un homme tranquille. Vous avez un jeu qui est, qu'on pourrait appeler de près, de l'underplaying. Vous êtes très tranquille dans votre façon de jouer. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé, pareil, très, très tôt à vous, cette façon très sage, je dirais, d'envisager vos rôles?
I grew up going to the movies, a child of the movies.
J'ai grandi au cinéma, c'est-à-dire que j'ai passé toute mon enfance à aller voir des films.
So, I'm shameless about stealing from other actors.
Et je n'ai jamais eu aucune honte à voler des choses aux acteurs que je voyais sur le grand écran.
One of my favorite actors is Anthony Hopkins. Very quiet man.
Parmi mes acteurs préférés, il y a Anthony Hopkins. Et Anthony Hopkins, c'est vraiment quelqu'un de très calme et de très réservé à l'écran. Et c'est incroyable ce qu'il peut faire d'un silence, Anthony Hopkins, au cinéma. Et j'ai appris de cela, oui.
Vous avez quelque chose aussi du héros impassible du western. On pourrait vous comparer à un Gary Cooper ou à votre ami Clint Eastwood. Dans votre manière d'être, ce sont aussi des personnes qui ont compté pour vous?
Absolutely. I'm a huge fan of Gary Cooper's.
Absolument. Et Gary Cooper, que vous citez, j'en suis un très très grand fan depuis tout le temps. Ce calme, cette maîtrise qu'il avait, absolument fantastique.
Types of performers, but they both give you their all. You know, Gary Cooper's best at the quiet moments. Clark Gable was best at storm and rock.
C'est l'opposé, par exemple, d'un acteur comme Clark Gable, que j'aimais aussi beaucoup, et qui, lui, était plus un trublion, et aussi qui était plus dans la force.
As I said before, I try to learn from all of them. Don't emulate, but learn.
Et j'ai appris de ces deux facettes-là des acteurs américains. Je dirais pas que j'ai copié, j'ai appris.
After 4 years of talks, the day black South Africans have been fighting for has finally arrived. For the first time, they are free to cast their vote alongside whites. An estimated 23 million people went to the polls today.
I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. Never, never. And never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world.
Le rôle, peut-être le rôle de votre vie, vous avez joué, je ne sais pas, 120, 130 personnages au cinéma, c'est évidemment celui de Nelson Mandela. dans Invictus. Comment est-ce qu'on rentre dans un personnage comme celui-là? Et en général, d'ailleurs, comment est-ce que vous trouvez la manière de rentrer dans un personnage? Est-ce que c'est le costume, les chaussures, comme disent certains comédiens? Est-ce que ce sont des gestes, une attitude?
Un peu de tout ça, je dirais, je crois, oui.
Playing someone who is living.
Mais si jamais vous interprétez un personnage vivant, là c'est très important de se rapprocher de cette personne. Rapprocher au point que vous pourriez la toucher et de suivre sa voix, de suivre son rythme, de suivre son mouvement de son corps. Et sa voix, surtout par exemple, quand j'ai interprété Mandela, j'ai noté qu'il a une voix de fond de gorge qui était très impressionnante.
For most parts that I play, if there's no living person involved, you just read the script and do what the script says. You know? If it's a living person, though, you have to learn. I think you have to learn an awful lot about them in order to be believed as them.
Je crois que vraiment pour un personnage qui a existé, il faut se rapprocher pour que les gens puissent croire en vous à l'écran. Mais si jamais c'est juste un personnage créé pour un scénario, un personnage inventé et écrit, alors je crois qu'il faut tout simplement suivre le scénario.
Quand vous avez joué Nelson Mandela, pour revenir à Invictus, c'était un personnage réconciliateur que vous avez joué, quelqu'un, on se souvient de l'histoire du film, qui a profité de cette Coupe du Monde de rugby pour rassembler son pays. Et à bien regarder dans votre filmographie des rôles comme Miss Daisy et son chauffeur, par exemple, c'est le sud des États-Unis, mais pas envisagé sous l'angle de la confrontation, sous l'angle d'une réconciliation possible. Et même quand vous jouez un président des États-Unis 10 ans avant Barack Obama, il y a cette idée que peut-être que la guerre des races aux États-Unis peut finir et qu'une réconciliation est possible. Est-ce que vous êtes attentif à ça quand vous choisissez certains rôles?
Partly. I am primarily interested in story. If this story is...
En partie, je dirais. D'abord, c'est l'histoire qui m'intéresse principalement quand je choisis un film. Il faut que l'histoire me touche, il faut qu'elle me parle. Et si jamais c'est le cas, alors je m'intéresse beaucoup tout d'un coup et je me lance dans le projet.
And a story, like Driving Miss Daisy.
Pour Miss Daisy, c'est une histoire d'amour, j'ai l'impression quand même, d'abord. Vous parlez de réconciliation, mais il y a eu réconciliation entre eux, entre ces deux personnages, dès le début. Ça fait longtemps qu'ils sont réconciliés. C'est une véritable relation qu'ils ont.
Mandela, of course, I asked him once about something. I can't remember what I asked. But his answer was, 27 years in prison gives you a lot of time to think.
Et pour Mandela, je me rappelle, je lui ai demandé une fois quelque chose. Et je ne me rappelle plus la question que je lui ai posée, mais je lui ai posé un jour une question et il m'a répondu, 27 ans en prison, ça vous donne beaucoup de temps pour penser.
Comment vous trouvez le Hollywood d'aujourd'hui? Vous êtes un des piliers des studios, vous êtes très populaire. Mais comment est-ce que vous avez observé l'évolution de ce système hollywoodien où, de notre côté de l'Atlantique, on a l'impression qu'en ce moment, il se passe quelque chose d'un peu difficile. Il n'y a plus que des films de super-héros, il n'y a plus que des suites, ce qu'on appelle des franchises. Comment vous trouvez Hollywood aujourd'hui?
Hollywood itself is sort of under siege.
Hollywood aujourd'hui me semble être comme sous un siège.
In days gone by, say in the 50s, primarily the 40s and the 50s and 60s.
Dans les années 50, et même on peut dire dans les années 40, 50, 60, il n'y avait pas tant de films que ça, de produits. Ils étaient écrits par des scénaristes qui avaient le temps, d'une part, pour travailler, et aussi une culture.
Writers who had time and background
pour produire quelque chose qui est un sens.
Today there are so many outlets, so many venues that writers don't really have time to sit.
Et aujourd'hui, ils sont tellement sous une pression permanente.
The skill
De produire, écrire tout le temps, et ils n'ont pas le temps de travailler leur art.
Some of the most incredible writings, and now you can pick up a book and it's dull. How many books
c'est difficile de, si vous ouvrez un livre, de tomber sur quelque chose qui, aujourd'hui qui fonctionne dès la première ligne, qui vous parle dès le début, qui commence par « Call me Ismaël » ou « Appelez-moi par, par ce nom-là » ou cette phrase qui vous attrape dès le début, dès la première page. C'est difficile vraiment à trouver.
That's very hard to come by now because even good writers.
Et c'est la même, il en est de même pour les bons scénarios.
Are under a lot of pressure to turn out.
Les scénaristes sont sous une telle pression sans cesse pour produire.
Yeah.
Yeah. I'm a real good shot with this rifle. Yeah. See that hawk up there? I could hit that hawk with one shot.
Hell, I could hit it too, Ned, if I didn't mind wasting a shot.
There ain't no hawk, kid. You can't see for shit, can you?
See your canteen?
All right, how far can you see?
Far enough.
We ain't going to Wyoming to shoot canteens, goddammit. How far? 100 yards?
More.
Can you see that scrub oak yonder?
Fuck you, Ned.
He's blind, Will.
Now hold on, hold it. How far can you see, kid? 50 yards?
You bet your ass I can see 50 yards, Will. I can see well enough to shoot this son of a bitch right here in front of me.
Now hold on. You hear that, Ned? Kid can see 50 yards. Fine.
Jesus. Dernière question, Morgan Freeman. Vous avez joué trois fois avec Clint Eastwood. On parlait de lui tout à l'heure. Invictus, avant, il y avait eu Million Dollar Baby et Unforgiven. Est-ce que pour vous, c'est un peu le réalisateur parfait? Celui qui ne va pas vous dire ce que vous devez faire, qui fait peu de prises et qui sait où il va?
Absolutely. I would say that if I was, if you put my...
Oui, absolument. Si jamais vous, là, vous me demandez quel est le meilleur réalisateur, mon préféré, celui avec lequel j'ai travaillé, même sous la torture, je suis obligé de vous le dire. Oui, effectivement, c'est Clint Eastwood.
For those very reasons. But he's not the best director for someone like Meryl Streep.
Même si Clint n'est peut-être pas le meilleur réalisateur pour tous les comédiens, par exemple, Meryl Streep, elle n'aime pas beaucoup aller vite comme ça. Moi, si.
And I also really don't care that much for being directed.
Et puis il y a des comédiens qui n'apprécient pas forcément d'être très dirigés. Moi, je suis comédien, j'arrive et sur un plateau, je joue.
And if you have your own ideas about how this part should be played, you would have to hire the person.
Si jamais le réalisateur a une idée de quelque chose de précis, de très précis pour le rôle, alors il faut qu'il trouve le comédien qui convienne à cette vision là.
But there are quite a few directors whom I've worked with that I like a lot.
Mais même s'il y a plusieurs réalisateurs avec lesquels j'ai beaucoup aimé travailler, certainement mon préféré, c'est Clint. Rien que de bosser avec lui, rien qu'au quotidien, c'est juste un plaisir.
On imagine bien, oui. C'est Harold Manning qui traduisait les propos de Morgan Freeman. On retrouvera l'acteur prochainement dans Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. Et pour ceux qui voudraient revivre son émergence, le film qui le révéla au grand public, c'était en 1989. Miss Daisy et son chauffeur de Bruce Beresford ressortira en version restaurée le 7 novembre. Vous écoutez France Culture, c'est Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Rendre vivant un mythe du cinéma, c'est ce qu'a accompli le grand photographe de mode, Bruce Weber. On se souvient de ce qu'il avait fait avec Chet Baker dans le très culte Let's Get Lost. Au début des années 90, il a filmé pendant 3 ans un Robert Mitchum septuagénaire, mais toujours égal à sa légende, séducteur, désinvolte, blagueur, avec cette présence toujours aussi imposante que mélancolique. Reprenant près de 25 ans plus tard, donc, ces images où on le voit notamment Mitchum chanter avec Marianne Faithfull, Ricky Lee Jones ou Dr. John, en les tressant aussi avec de multiples extraits de film et les témoignages de ceux qui l'ont connu et admiré, Bruce Weber dresse un beau et émouvant portrait très impressionniste de celui qui cachait une grande profondeur et une extrême sensibilité derrière une façade de je m'en foutiste patenté et de buveur invétéré. C'est Howard Hawks qui le racontait à propos du tournage d'Eldorado. Quand on a été à la moitié du tournage, je lui ai lancé « Tu sais, tu es le plus bel imposteur que j'ai jamais rencontré de toute ma vie ». Avec un large sourire, il m'a demandé « pourquoi. Tu fais semblant de te foutre complètement d'une scène et tu es le type le plus bosseur que j'ai jamais connu. Surtout, a-t-il répliqué, que ça reste entre nous.
Bob Mitchum reminds me of a time when I was a kid and my parents weren't getting along and they were about to get a divorce. My mother would pick me up from school at 3 o'clock sharp and drive to a bar off the highway near our home in Pennsylvania to meet her boyfriend. I would sit at the bar with my algebra and history and English books to do my homework. There would be all these guys sitting at the bar watching sports or the news on TV. Sometimes they would help me with my assignments, and they always reminded me a lot of Robert Mitchum. They were big guys, very athletic, with huge, rough hands and deep, whiskey voices. I think the way I look at men in photographs came from that time a little bit. From spending afternoons with all those guys.
Bruce Weber, est-ce que vous avez mis du temps à convaincre Robert Mitchum de faire un film sur lui?
After I first photographed him for Vanity Fair up in Montecito, California, I was out there all the time. In Santa Barbara, photographing anything I could, whether it was horses, dogs, girls, guys, sometimes fashion, sometimes personality.
Après l'avoir photographié pour Vanity Fair, c'était à Montecito, j'ai passé beaucoup de temps à Santa Monica. Je faisais du cheval, je faisais des photos de modèles, je faisais un peu de tout, je m'occupais. Et je lui envoyais un petit peu des messages, un peu pour attirer son attention. Je lui envoyais des jolies filles, je lui envoyais des cadeaux, je lui envoyais des gâteaux, je lui envoyais des films de Russ Meyer, enfin tout ce que je pouvais pour un petit peu rester un peu dans son angle de vue.
Then the next time I heard from him, he said to me, never mentioning any of the girls, never mentioning the cakes and the books.
Et la fois d'après, quand je l'ai vu, il ne m'a pas du tout parlé des filles, il ne m'a pas du tout parlé des gâteaux, il ne m'a pas du tout parlé des livres, etc., que je lui ai envoyé. Il m'a dit, écoute, on se voit jeudi prochain.
I said to him, Bob, we'd like to send a car for you. We didn't have a lot of money, but I thought I wanted to try to make him feel like, you know, that we were serious.
Et je lui ai dit, Bob, on va t'envoyer une voiture, bien sûr, pour que tu nous rejoignes. J'avais envie de paraître un peu luxueux, d'avoir un peu les moyens, d'avoir l'air sérieux. On n'avait pas de fric, on était complètement fauchés pour le projet, mais j'avais envie d'un peu de faire genre, d'avoir de la contenance, et de faire comme s'il était une star, de le traiter comme la star qu'il était. Mais il me dit, non, pas besoin de ça, t'inquiète pas. Je vais aller à la station service, et puis je demande que quelqu'un nous conduise. Je trouvais quelqu'un pour me conduire à Los Angeles pour te rejoindre.
I chose the Beverly Hilton Hotel because it had this wonderful room up there. It's like a small penthouse. And it also had Trader Vic's restaurant, which was like a Polynesian restaurant. And they really played.
J'avais choisi qu'on se retrouve au Beverly Hills Hotel parce que c'est un endroit qui déjà est assez classe et puis un endroit qui est réputé parmi les comédiens. Et puis il y a ce restaurant dans l'hôtel qui s'appelle le Trader Vic's et qui est un restaurant polynésien et qui a beaucoup d'allure. On y joue de la musique très cool, etc. Et d'ailleurs, je me rappelle que George Stevens Jr., le fils du réalisateur, m'avait raconté une histoire quand je l'avais rencontré, lui, dans le Montana. Il était grand fan d'Elizabeth Taylor, comme moi d'ailleurs. Il l'avait invité, il avait réussi à l'inviter pour un dîner. Il était très nerveux, il l'attendait dans le restaurant et il glisse en l'attendant, elle était en retard, la main dans sa poche. Il se rend compte qu'il n'a pas de portefeuille, il n'a pas de fric, il n'a pas de carte de crédit. Il a dû convaincre le maître d'hôtel de lui avancer l'argent pour payer la soirée parce que sinon il n'allait pas arriver, il allait faire mauvaise figure devant Elizabeth Taylor. Donc c'est le genre d'endroit, le Beverly Hills Hotel, où les acteurs sont à l'aise, où ils connaissent les acteurs et ils peuvent arranger des choses comme ça. J'avais donc choisi cet hôtel.
Before we started filming, I said to him, would you like to invite your friend from the gas station for lunch? And he said, no, not at all. He can just stay in the car and wait for me.
Et juste avant de tourner, donc, avec Bob, je lui dis, mais Bob, si vous voulez, on peut inviter aussi à nous joindre à notre table votre ami, celui que vous avez rencontré à la station service et qui vous a conduit jusqu'ici. Il a répondu, non, ça va, il peut rester dans la voiture. Et donc, j'ai su que j'avais finalement devant moi un type tout à fait normal qui se trouvait être une star de cinéma.
Précisément, Bruce Weber, quand vous avez voulu filmer Robert Mitchum, vous vouliez filmer la star, hein, le personnage Robert Mitchum, tel que plus de 130 films de l'histoire d'Hollywood l'ont façonné, ou vous vouliez chercher le gars normal dont vous parlez?
I think that when I started the film and continued with it for a long time, on and off, I really wanted to see why people would say about Bob that he was the real.
Quand j'ai commencé le film, et c'est finalement le sentiment qui m'a bercé pendant un long moment, longtemps dans la fabrication de ce film, c'est que je voulais trouver ce qu'on appelle the real deal, c'est-à-dire le type vrai qu'il y avait derrière la star. Je voulais savoir son fonctionnement et je voulais en fait faire de lui un ami.
Précisément, Robert Mitchum s'est caché longtemps derrière une image qui est celle du type désinvolte, qui fait des films parce qu'il il a rien trouvé d'autre qui soit aussi bien payé, parce qu'il était feignant, qui dira beaucoup que ce n'est pas un vrai métier d'être un acteur. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il était lui-même prisonnier, finalement, de l'image qu'il s'était donnée?
I always felt that Bob was trying to hide behind that image. But the Bob that I got to know through the making of the film was
j'ai toujours pensé que Bob était un caractère, un personnage qui se cachait derrière cette image qu'il avait fabriquée, effectivement. Mais le Bob que j'ai rencontré, que j'ai filmé, c'était quelqu'un qui était finalement peut-être un peu étrange, mais en tout cas très sensible et surtout quelqu'un de très cultivé. Et c'est peut-être pour ça que les comédiennes, les actrices adoraient tourner avec lui. Il était vraiment leur partenaire préféré. Je me rappelle que Jane Russell a dit un jour, on lui posait la question, qui est-ce qui embrasse le mieux comme comédien à Hollywood? Elle a pris un temps avant de répondre, elle a dit, c'est lui. C'est Bob Mitchum.
There isn't enough for both of us.
My sentiments exactly. What about the wallet, honey?
I don't know what you're talking about.
You just gave the bellboy a $2 bill that was part of a short snorter that I carried all through the war.
Get out of my room.
Look, honey, I've had a hard day. Now just give me the wallet and we'll forget the whole thing.
I've already forgotten it. Shove.
Jane Russell, puisque vous la mentionnez, ce sont les débuts de Robert Mitchum. C'est Robert Mitchum à l'époque de la RKO avec David O. Selznick et puis Howard Hughes plus tard. Et c'est vrai qu'on oublie un peu maintenant que Robert Mitchum, au départ, est lancé comme une sorte de Jane Russell masculin, comme un sexe symbole, et qu'on va jouer beaucoup de ça pour lancer Robert Mitchum comme star.
People always ask me, like, do you think that picture of that guy or that girl or that person in a film is sexy? I think that
on me demande toujours, mais qu'est-ce qui rend finalement un personnage, un visage, un corps sexy dans une photo? On me demande, pose souvent cette question-là à moi. Je crois que c'est avant tout un point de vue personnel qu'on peut porter là-dessus. Et ce qui, pour moi, le rendait, lui, sexy, c'est que c'était quelqu'un qui était très intéressant, quelqu'un qui était aussi très intéressé. Il avait énormément d'assurance, surtout, malgré la peur qui l'habitait. Et c'est cette vulnérabilité permanente chez lui qui le rendait profondément sexy.
Pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu Robert Mitchum, c'est impossible puisque tout le monde connaît sa figure, comment est-ce que vous décririez physiquement Robert Mitchum? Comment vous décririez son visage et son corps si particulier?
Bob, when you met him at first, seemed like a very small person. And after about 10 minutes, he was a giant. He had this very intimidating way.
Bob, la première fois qu'on le rencontrait, au premier regard, on avait l'impression qu'il était petit d'abord. Et au bout de 10 minutes, il semblait au contraire être un géant. Il avait une façon très intimidante de se présenter, d'avancer vers vous. Et vous ne pouviez pas, ça le faisait rire d'ailleurs quand on en parlait, mais on ne savait pas s'il se jetait sur vous pour vous serrer la main, pour vous casser la figure. Et Ginger Baker, avec qui j'en ai beaucoup parlé, c'était quelque chose aussi qui nous passionnait.
Vous qui l'avez vraiment regardé comme un photographe, faites-nous un portrait de ce visage très très unique de Robert Mitchum.
Well, you know, if I had to say something, his face is very much like if you looked at the photos of North by Northwest.
Pour le décrire, voilà ce que je peux vous dire. Si vous regardez une photo de La mort aux trousses, le film, vous savez, et vous voyez le Mont Rushmore dans le film de Hitchcock, eh bien, C'était ça le visage de Bob. C'était comme ça, creusé dans la terre, dans la montagne. Vraiment, c'était complètement lui. La seule différence, c'est qu'il avait un petit clignement dans l'œil.
I really would like to say that I wish, you know, I miss him every day. And I really wish that he had continued acting later into his life because, you know, he was sort of like, and had a career in foreign films like Burt Lancaster did, you know. I think Bob would have been really amazing in that way, you know.
Je veux dire que, d'abord, Bob me manque tous les jours. Et j'aurais tellement voulu qu'il continue sa carrière. Il continue à jouer la comédie un peu plus longtemps dans sa vie. Il aurait pu faire une carrière à l'étranger. Vous savez, comme par exemple Burt Lancaster, qui a tourné beaucoup en Europe. Il aurait été merveilleux dans des films français, dans des films italiens. Il aurait eu cette épaisseur pour un personnage, pour un film comme ça. Et cette vulnérabilité de Bob, je la retrouve, par exemple, en regardant des photos de Delon dans, par exemple, Rocco et ses frères. Quand il était ce jeune boxeur, avec cette fragilité. Puis on le voit aussi dans les photos avec Romy Schneider, où il devient un homme. Et cette transformation à travers le temps, c'est quelque chose qui est également, qu'on trouve vraiment beaucoup chez Bob.
Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, for inwardly they are ravening wolves.
Martin Scorsese faisait la réflexion en parlant de Robert Mitchum qu'il n'aurait sans doute pas été la star qu'il était s'il était arrivé 10 ans avant, dans les années 30. Qu'il personnifiait en fait complètement à la fois le film noir et ce sentiment qu'avait l'Amérique dans les années 40 au sortir de la guerre, que quelque chose s'était cassé, qu'on ne pouvait plus y croire, qu'il y a un côté désenchanté chez Robert Mitchum qui finalement incarne bien cette période-là. Vous avez le même sentiment?
Yes, I really feel that, you know, Bob's comment every time he was asked, I'm worse, was really that sense of defeat. I think that he had a lot of battles, you know.
Oui, vraiment, tout à fait. Il faut se rappeler que Bob Mitchum, quand on lui demandait ça va, il répondait « I'm worse, je vais pire ». Il y avait chez lui ce sens de la défaite. Il avait traversé bien des batailles. Et c'était en même temps quelqu'un qui était toujours attentif et qui aidait les gens. Mais il n'a jamais, surtout à ses débuts, il n'a jamais été vraiment apprécié à sa juste valeur aux États-Unis. L'époque n'était pas encore... il était trop moderne pour l'époque aux États-Unis. Et puis c'était un jeune acteur qui avait la réputation d'être un emmerdeur et on ne lui donnait pas les rôles qu'il souhaitait, des rôle à sa mesure, à ses débuts.
Est-ce que vous diriez qu'à cette époque-là, l'Amérique, en même temps, avait besoin d'un Robert Mitchum, que Robert Mitchum incarnait un esprit de liberté et de révolte? Il y a la fameuse histoire de son emprisonnement pour usage de marijuana, qui avait fait beaucoup parler dans les gazettes. Tout autre acteur aurait vu sa carrière détruite. Si ça avait été un Gary Cooper ou un James Stewart, ça aurait été catastrophique. Lui, ça lui a presque servi. Et ça a contribué à la légende, comme si l'Amérique avait besoin de ce Big Bad Bob, le méchant garçon.
With what you say, doesn't it make you so understand that today he could never be?
Oui, je comprends tout à fait ce que vous dites, et parce que vous dites, on comprend bien aussi qu'aujourd'hui, Robert Mitchum ne pourrait pas avoir du tout la carrière qu'il a eue à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ce serait impossible. Quand je prends des photos de gens, d'acteurs ou de personnalités, hommes ou femmes, tout le temps, on me dit, oh non, ça je peux pas, oh non, ça c'est impossible. Toujours j'ai cette réponse-là. Il faut se rappeler qu'il y a des photos, par exemple, de Marlon Brando chez lui dans sa maison, qui sont extraordinaires. Et quand je connais un acteur ou une actrice qui emménage dans une nouvelle maison, je lui demande toujours, je lui donne comme conseil, mais fais des photos, fais une session de photos, parce qu'il n'y a rien de plus beau, sympathique, sexy, sensible que de voir quelqu'un qui fait des travaux pour s'installer quelque part. C'est quelque chose de très photogénique. Et c'est pour ça que j'aime tellement les photos de Robert Mitchum chez lui, les photos qu'on a prises quand il tourne la pelouse.
Ça, c'est possible aussi parce que, en toutes circonstances, Robert Mitchum a une présence extraordinaire. Benicio del Toro le raconte dans votre film, comment, quand Robert Mitchum entrait dans une pièce, l'atmosphère changeait tout d'un coup. Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à analyser, à comprendre, d'où venait cette présence, ou est-ce qu'on doit juste la constater?
I think it's like that old saying, you either have it or you don't.
Je crois que c'est ce qu'on dit, vous savez, le vieux dicton, hein. Soit on l'a, soit on l'a pas.
Ah, little lad, you're staring at my finger. Would you like me to tell you the little story of right hand, left hand? The story of good and evil? H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see, these fingers, dear hearts, these fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Now watch and I'll show you the story of life. These fingers, dear hearts, is always a warring and a tugging, one against the other. Now watch them. Old brother left hand hates a fighting, and it looks like love's a goner. But wait a minute. Wait a minute. Hot dog loves a winning. Yes, sirree. It's love that won. An old left hand hate is down for the count.
Ce qui est formidable aussi avec quelqu'un qui incarne autant l'histoire du cinéma que Robert Mitchum, c'est qu'il vient accompagné de ses rôles. J'imagine aussi que quand Robert Mitchum entre dans une pièce, c'est à la fois le prédicateur fou de la nuit du chasseur, c'est l'incarnation même du mal absolu qui est son rôle dans Cape Fear. Comment est-ce que lui vivait cette histoire-là et cette image qu'il avait pu renvoyer de quelqu'un d'absolument terrifiant?
A lot of people don't know this about Bob, but he was very well read. He read a lot and he wrote poetry, and he really loved the lyrics and music.
Il y a des choses que beaucoup de gens ne savent pas à propos de Mitchum, c'est que c'était un homme très cultivé. Il avait beaucoup lu, il avait écrit des poèmes, et il était passionné par les lyrics, les paroles des chansons. Et dans mon film, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de musique. Johnny Mercer, c'était son parolier préféré. Et souvent, la question qu'on peut se poser avec des gens, c'est comment ils deviennent comédiens. C'est un peu quelle est l'alchimie? Qu'est-ce qui fait que ça devient comédien? Le BFM avait proposé de faire un portrait d'une comédienne. Et la question que je me posais, c'est comment j'allais la filmer, comment j'allais la représenter. J'avais choisi Gina Rowlands parce que Gina Rowlands, pour moi, j'étais vraiment fou d'elle et aussi du travail qu'elle avait avec son mari, John Cassavetes. Et je lui dis, voilà, on va faire un portrait de toi. Et elle me répond, mais moi, ce que j'aime, moi, c'est regarder, c'est la chaîne météo. C'est ça que je fais, je regarde la chaîne météo. Une fois qu'elle m'a dit ça et avoué ça, je n'arrivais plus à la joindre. Elle était plus contactable, c'était impossible. Et je la cherchais partout pour qu'on commence à tourner ce film. Et j'arrive finalement à la trouver dans un hôtel perdu, dans le désert, je crois. Et elle me dit, mais s'il te plaît, Gina, je t'en supplie, faisons le film, arrête de fuir, etc. Et elle me dit, écoute, franchement, Bruce, il faut que je te dise, franchement, j'ai l'impression que pour que ce film soit réussi, il faut que tu fasses quelque chose, il faudrait que je joue mon propre rôle, mais je crois que je suis vraiment nul pour jouer mon propre rôle.
Look! I was gonna go for Nancy. But I can always make it with Nancy, you know, next week, next month. Wait a minute now. You proposition me. You instead of Nancy. And I'll agree never to see you again, all right? Listen, unless of course you want it. And that's how you give your consent.
And that's not consent, it's blackmail!
Get it! The reasons don't make any difference. You look that up. As far as blackmail is concerned, you only think I'm going after Nancy. Come over here! You're just saying it's safe. Now your husband... He's gonna appreciate your noble gesture, but he ain't never gonna forget it.
No! No! Oh, please, please,
so,
please, 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 please.
So all in all, I don't think you're gonna say too much about this, are you? You're not gonna talk about it, are you?
Je voulais revenir sur la violence que pouvait dégager Robert Mitchum à l'écran, qui n'est pas une violence spectaculaire. On sent que sous l'eau qui dort, sous le côté très cool de Robert Mitchum, il y a à l'intérieur une cocotte minute qui est prête à exploser. Dans votre film, Polly Bergen, qui est sa partenaire dans Cape Fear, Les nerfs à vif de Jack Lee Thompson, raconte comment elle a eu elle-même peur dans la scène finale du viol à la fin des nerfs à vif. Et comment elle l'avait vu rentrer en transe, quasiment.
You know, I think it's very interesting where we have anger and where we keep it. And I feel that Bob, you know, he lost his dad when he was a very young man. His dad worked on the railroad cars and he had a train accident. And I think he was always like hurt and angry about that. And I think that he was angry because, you know, his family was very poor. And he really ran home, I think, about 10 or 11 times.
Il venait d'une famille pauvre et on sait que c'était 11 ou 12 fois qu'il avait fui son foyer alors qu'il était à peine adolescent. Il avait vraiment fait des fugues très vite. Et puis il avait vécu comme un hobo, comme ces gens qui traversaient l'Amérique de boulot en boulot. Il avait été arrêté, il avait été emprisonné en Géorgie, ça avait été une expérience très difficile. Il avait travaillé dans l'usine Lockheed en Californie. Un de ses copains était marié, je crois, à Marilyn Monroe, et donc il allait manger chez eux et il avait rencontré Marilyn Monroe. Enfin, tout ça, c'est assez extraordinaire, mais il avait vraiment une colère en lui, quelque chose d'extrêmement résistant en lui. La colère des gens qui doivent faire 3 ou 4 boulots par jour pour vivre, pour soutenir sa sœur qui habite à Los Angeles, pour soutenir son frère aussi, etc. Il avait cette colère en permanence avec lui. Je dirais que Robert Mitchum, c'était quelqu'un qui pouvait être l'oncle parfait, mais peut-être pas le père et peut-être pas le mari idéal.
Dans votre film, Bruce Weber, sa petite fille raconte même une scène assez bouleversante où son grand-père part avec un fusil et est presque prêt à se tuer. Il y avait cette tristesse chez Robert Mitchum qui transparaissait et aussi peut-être ce sentiment d'imposture. Vous avez parlé de son métier d'ouvrier chez Lockheed avec ce sentiment que, comme je disais au départ, comédien, c'est pas un vrai métier. Quand on fait un boulot, on va à l'usine.
Acting kind of fell into his lap by mistake. And I think he was such a natural actor because of that. He didn't go to acting school. You know, he wasn't a normal guy that arrived with a press agent. He was like the odd man out.
Oui, finalement, de devenir comédien, ça lui était tombé dessus par accident. Il le faisait avec un tel naturel que forcément, ça avait été facile, peut-être, pour lui. Qu'il n'avait pas fait d'école dramatique du tout. Il n'était pas du métier, c'était pas le genre de type qui se pointait toujours flanqué de son attaché de presse. C'était quand on le rencontrait, quelqu'un qui était terriblement quotidien, terriblement nature. C'était quelqu'un qui ne traînait pas beaucoup avec des potes, avec des copains. Il était entouré de femmes. Ses amis étaient des femmes. C'était un solitaire aussi. Et quand on le rencontrait, c'était quelqu'un qui frappait parce que c'était quelqu'un qui était immédiatement extrêmement profond dans ses réflexions, dans sa façon d'être. Il ne donnait jamais le sentiment d'avoir conscience d'être un beau mec. Je me rappelle quand j'avais pris la première fois sa photo pour Vanity Fair, je lui avais demandé de mettre un short. C'est un truc pas facile à faire dans la vie, de demander à Robert Mitchum de changer de pantalon. Et je lui avais demandé de porter un short parce que ainsi on voyait ses chaussettes et on voyait au-dessus de ses chaussettes la peau sur ses jambes. Et ça me rappelait mon grand-père quelque part, et cette silhouette élancée que ce genre d'homme avait. Mais pour en revenir à l'homme qu'il était et pour la colère, effectivement, qui l'habitait, je crois que sa colère, elle était surtout contre l'autorité. L'autorité qu'il avait vécue comme quelque chose qui était synonyme d'injustice. Et c'est cette autorité-là qu'il combattait toujours et qui était tout le temps suspecte, je crois, chez lui, qui lui donnait l'envie de se battre et de se battre contre cette autorité.
Otto Preminger s'est souvenu longtemps de la gifle qu'il avait reçue de la part de Robert Mitchum sur le tournage de Angel Face, un si doux visage, parce que il était un peu maltraitant avec Gene Simmons. Pour finir, Bruce Weber, je voudrais revenir sur la dimension musicale de votre film. Je crois que c'est Don Siegel qui parlait de Robert Mitchum comme ça. Ils avaient tourné un film ensemble, The Big Steel, ça commence à Veracruz. Il disait, le truc de Robert Mitchum, c'est de toujours parler moins fort que son partenaire sur toutes les scènes. Comme ça, l'acteur en face de lui paraît toujours surjoué. On l'entend beaucoup dans votre film. Il y a une musicalité dans la voix de Robert Mitchum. Et c'est pas pour rien que c'était un aussi bon chanteur.
Well, I think that Bob really
Vous savez, là, Robert Mitchum, il avait une voix, je me rappelle, c'est un ingé son qui m'a dit un jour ça exactement, il a une voix qui traverse le micro et qui vous prend à la gorge. C'était exactement ça, la voix de Bob. Et moi, j'adore ces albums, de chanteurs, ces albums de Calypso, de Country, tout ça, j'aime beaucoup. Je me rappelle d'ailleurs, quand on tournait ce documentaire, Bob m'a dit, oh, mais moi, je suis pas chanteur du tout. Et je lui ai répondu, mais attends, j'ai au moins deux vinyles de toi où tu chantes des chansons, etc. Et il m'a regardé bizarrement et je crois qu'il ne savait pas, il ne s'en rendait pas compte que moi je savais et que ces disques-là, je les avais et que je les connaissais bien. Je crois que quand on commence en tant que documentariste à faire un film sur un acteur, sur quelqu'un, on a une image rêvée de cette personne. On commence avec l'image rêvée que l'on a de ce sujet. Et moi, ce que j'aurais aimé finalement faire, mon image, et là où j'aurais voulu aller finalement, c'était que j'aurais aimé que Bob Mitchum continue à faire des films, et je trouve que sa partenaire idéale, ça aurait été Simone Signoret. Parce qu'elle était en tant que femme, elle avait les mêmes qualités en tant que femme que lui, homme. Cette vulnérabilité, cette force. Vous savez, cette personne qui peut être tellement douce avec vous, et puis maintenant qui vous balancer une tarte à la gueule tout de suite, une grande baffe. Et je pense que tous les deux, ils auraient été un vieux couple parfait au cinéma. Et je sais aussi combien Signoret avait eu de la peine quand Montand avait eu une histoire avec Marilyn Monroe. Alors du coup, j'aurais bien aimé que Simone Signoret ait une histoire d'amour avec Robert Mitchum.
Malheureusement, on ne peut pas refaire l'histoire du cinéma et l'histoire des couples. Si vous deviez retenir Bruce Weber, un film de Robert Mitchum, est-ce qu'il y a un film en particulier qui est très très important, très proche de votre cœur?
I would say The Red Pony, because a friend of mine, Roddy McDowall, was in it as a young boy, and he told me how.
Ce serait un film que je choisirais, ce serait un film qui s'appelle The Red Pony. C'est un film dans lequel un ami à moi, quand il était enfant, jouait la comédie. Il jouait un rôle dedans. Et Bob jouait, je crois, son père. Et Bob, sur le tournage, Robert Mitchum l'a beaucoup aidé à jouer la comédie, à être dans le film, etc. Il avait un vrai rôle de vrai père, finalement, avec. Et quand je pense à cette histoire et quand je vois le film, je pense à mon père aussi, moi. Et je pense à comme j'aimais aller au cinéma avec lui, voir des films avec lui. Et c'est finalement ça qui fait que je choisis ce film. C'est ça qui fait que nous retenons un film plutôt que l'autre. C'est qu'il nous rappelle ce genre de sentiments forts.
I just want to add to that Roddy didn't get that part finally in The Red Pony, but Bob and him stayed friends for the rest of their lives.
Et je veux ajouter quelque chose pour finir, c'est que mon ami Roddy, finalement, après le casting de Red Pony, il n'avait pas eu le rôle. Il n'a pas finalement tourné dans The Red Pony. Mais cependant, ça s'était tellement bien passé entre eux que Bob et lui sont restés amis, même s'il n'a pas été retenu pour faire le film.
Let me tell the story, I can tell it all. About the mountain boy who ran illegal alcohol. His daddy made the whiskey. Son, he drove the load. When his engine roared, they called the highway Thunder Road. Sometimes into Asheville, sometimes Memphis town. The revenuers chased him, but they couldn't run him down. Each time they thought they had him, his engine would explode. He'd go by like they were standing still on Thunder Road.
And there was thunder, thunder over Thunder Road.
Thunder was his engine and white lightning was his load.
And there was moonshine, moonshine, twice the devil's thirst.
The law they swore they'd get him, but the devil got him first. On the 1st of April, 1954, the federal man sent word he'd better make his run no more. He said 200 agents were covering the state. Whichever road he tried to take, they'd get him sure his fate. Son, his daddy told him, make this run your last. Your tank is filled with 100 proof, you're all tuned up and gassed. Now don't take any chances, if you can't get through, I'd rather have you back again than pull that mountain dew.
And there was thunder, thunder over Thunder Road.
Thunder was his engine and white lightning was his load.
And there was
moonshine, moonshine to quench the devil's thirst. The law they swore they'd get him, but the devil got him first. Roaring out of Harlan, revving up his mill, he shot the gap at Cumberland and screamed by Maynardville. With G-Man on his taillight, roadblocks up ahead, the mountain boy took roads that even angels feared to tread.
blazing right through Knoxville, out on Kingston Pike. Then right outside of Bearden, there they made the fatal strike. He left the road at 90, that's all there is to say. The devil got the moonshine and the mountain boy that day.
And there was thunder, thunder, over Thunder Road.
Thunder was his engine and white lightning was his load.
And there was moonshine, moonshine, quenched the devil's thirst.
The law they never got him, 'cause the devil got him first. Law they never got him, 'cause the devil got him first.
Thunder, thunder, thunder toll.
La ballade de Thunder Road, chantée par Robert Mitchum lui-même, ça sortait d'un de ses films préférés, Thunder Road d'Arthur Ripley en 1958. Robert Mitchum l'avait à la fois produit et écrit, et puis bien sûr, il en jouait le premier rôle. C'est à nouveau Harold Manning qui interprétait les propos de Bruce Weber, qu'il en soit remercié. Il faudra attendre le 27 février pour découvrir en salle Nice Girls Don't Stay for Breakfast. Le rendez-vous est pris. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Plan Large, après les planches de Deauville, cap sur les terrasses du Lido vénitien. La bande-annonce de Roma d'Alfonso Cuarón, un film qu'on attendait à Cannes mais qui ne pouvait pas y être sélectionné, frappé qu'il est du sceau d'infamie Netflix. C'est donc à Venise qu'il a fait les beaux jours de la compétition de la 75e Mostra. C'est le préféré, si j'ai bien compris, de la critique internationale, dans une compétition avec beaucoup de poids lourds. Elle s'achève ce soir, cette compétition, et vous avez bien sûr tout vu, Michel Simon. Quel bilan tirez-vous à quelques heures du palmarès?
C'est à 4 heures du palmarès, Antoine. Une très bonne impression. Enfin, je crois que la presse internationale comprend que Venise est définitivement un très grand rendez-vous. Après Cannes, c'est le rendez-vous mondial le plus important de l'année. Et les favoris, alors évidemment, Roma est le grand favori. Mais on se pose des questions parce que c'est un film, comme vous l'avez dit, Netflix. C'est-à-dire qu'il ne sortira pas dans les salles. Alors, est-ce qu'on donnera un lion d'or à un film qui est destiné au téléphone portable ou à la télévision ou au petit écran, etc. Ça, c'est douteux, on ne sait pas. Et d'autre part, le président du jury, c'est Guillermo del Toro, qui est un Mexicain comme Alfonso Cuarón, un de ses meilleurs amis. Et évidemment, il va être un peu embarrassé, sauf si le jury est unanime et considère que ce film, comme il se doit, mérite le Lion d'Or. Il faut dire aussi que la sélection française a été excellemment reçue. J'ai sous les yeux le tableau de 20 critiques à la fois italiens et internationaux. Et je constate que le film de Jacques Audiard est le deuxième, les Frères Sisters.
Son western.
Le film de Assay, le western de Jacques Audiard. Le film de Olivier Assayas est le quatrième dans la liste. Et même Frères Ennemis est le sixième, ça veut dire que, ou septième. Ça veut dire que les trois films français ont été excellemment reçus. Le prix de la FIPRESI vient d'être décerné. On sait que c'est un prix prestigieux puisque c'est la critique internationale. Il a été donné à un film qui, curieusement, n'a pas été unanimement reçu, que moi j'ai énormément aimé, qui est le deuxième film de Laszlo Nemes, l'auteur des Fils de l'Homme, qui s'appelle Crépuscule, qui est un film sur la fin de la civilisation austro-hongroise, de la culture Mitteleuropa, un film apocalyptique. En ce sens, il ressemble aux Fils de l'Homme, même si la Shoah n'a pas de comparaison réelle dans l'histoire. Et c'est un film extrêmement brillant visuellement, assez étonnant, dans le style un peu d'Orson Welles du passé. Alors moi je voudrais vous dire aussi que ce qui est passionnant à Venise, c'est évidemment l'extraordinaire richesse de la sélection. C'est-à-dire que c'est un festival où, par exemple, on peut voir quatre des plus grands documentaristes aujourd'hui. Le nouveau film de Fred Wiseman, Monrovia, Indiana, qui est l'étude d'un petit village de 2000 habitants avec l'élevage des cochons, etc., qui a voté Trump, évidemment, et que Monsieur Wiseman passe sous le crible de ses caméras. Il y a le film de Errol Morris sur Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump. Il y a un très beau film, une fois de plus, de Riti Pan sur les tombeaux sans nom, c'est-à-dire sur le massacre de la population cambodgienne par les communistes cambodgiens. Et puis, un film également stupéfiant du grand documentariste et auteur de fiction ukrainien, Sergueï Losnitsa, Procès. C'est le premier procès stalinien de 1931, apparemment. Les soviétiques avaient conservé toutes les archives et on voit des gens condamnés au peloton d'exécution pour avoir fomenté un coup contre la Russie soviétique. Mais on sait que tout a été fabriqué, évidemment, par Staline. C'est un film tout à fait étonnant. Mais c'est aussi un festival où on voit des gloires du passé qui sont présents, mais éclipsées dans des sections parallèles, dans des petites salles. Je pense à Zhang Yimou, le nouveau film de Zhang Yimou, qui a remporté 2 fois le Lion d'Or. Le film de Kusturica, un documentaire sur un chef d'État uruguayen, LPP, et puis Tsai Ming-liang, alors Kusturica évidemment 2 palmes d'or à Cannes, et puis Tsai Ming-liang, Lion d'or à Venise il y a 20 ans, qui montrait un film en catimini. Bon, ça veut dire que le CAC 40 ou la bourse existe aussi au cinéma. Alors, pour revenir sur Orson Welles, on a montré The Other Side of the Wind, une reconstitution abusivement présentée comme le dernier film d'Orson Welles. En fait, c'est 80 heures de rush dont on ne sait pas ce qu'aurait fait Orson Welles, qui ont été remontés par Peter Bogdanovich, ou montés plutôt. Et on est très... Pour moi, j'ai été... La presse américaine délire sur ce film. Pour moi, c'est une imposture. Ce n'est pas du tout Orson Welles. On ne reconnaît même pas un plan. Et si on veut voir du Orson Welles, il faut aller au Palais Ducal, où il y a une grande exposition Tintoret, où là, on voit des contre-plongées, de la profondeur de champ, et on voit un peintre wellsien avant la lettre. Donc, c'est la grande exposition Tintoret qui s'est ouverte hier et qui est un spectacle merveilleux. Autre question, Antoine Guillot.
Mais non, merci Michel Simon. On verra dans quelques heures si le jury de Guillermo del Toro est d'accord avec vous.
Alors je dois dire aussi qu'il y a peut-être un outsider, un film de Yorgos Lanthimos, le cinéaste grec qui l'a tourné en Angleterre, qui s'appelle La Favorite, qui pourrait avoir le Lion d'Or. C'est un outsider, c'est un film, une farce, moins prétentieuse et moins misanthrope que les précédents films de Lanthimos. Du sorte de Peter Greenaway époque meurtre dans un jardin anglais, mais sans l'intelligence extraordinaire de Greenaway, un exercice de style assez brillant, je dois dire, qui m'a un peu réconcilié avec lui, parce que au moins il raconte une histoire sans condescendance. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. For me, yeah. And I'm feeling good.
C'est un extrait de la bande originale des Fresh Sisters de Jacques Audiard qu'on entend, Feeling Good. C'est le 19 septembre qu'on pourra voir ce western étonnant de Jacques Audiard. Puisque je vous tiens, Michel, je signale à nos auditeurs que le site web de France Culture a eu la très riche idée de proposer à la réécoute les entretiens tout à fait exceptionnels que vous aviez enregistrés avec votre cher Stanley Kubrick. C'était en 1975 à l'occasion de la sortie de Barry Lyndon. À réécouter donc sur franceculture.fr. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Emmanuel Morse d'Incan. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, nous fêterons les 40 ans des films d'ici, grand producteur de documentaires de création avec son fondateur Richard Coppens et 2 éminents cinéastes de son écurie, Marie Dumorat et Nicolas Philibert. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, en excellente compagnie et beaucoup de plaisir.